There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Et en Master 1, j'arrive, je vais voir mon doyen, à la fac de droit, c'est un doyen. Ouais. Je lui dis, monsieur, je vais prendre une année de césure cette année. Il me dit, monsieur Dossier, non. Vous partez pas.
C'est ça, ils peuvent dire non, quoi.
Et je dis, si, il me dit non.
Donc je lance ma première formation, je fais 800 euros, je suis fou de joie. Première fois que j'y gagne de l'argent sur internet, je m'achète un scooter. Évidemment, je claque tout. Formation suivante, je fais quelque chose comme 1000 euros, tu vois, trop bien et tout.
Et selon moi, c'est ça la V3 qui arrive, la troisième version. C'est des gens qui...
On est des warriors, ouais. Mais on est en dépression.
Et on pleure le soir.
C'est ça, Warrior le matin et mais... le soir, bon.
Salut Antoine, comment ça va?
Salut Grégoire, ça va très bien.
Ça me fait super plaisir de te voir aujourd'hui pour faire cette interview. Alors pour te donner un petit peu de contexte sur ce que je fais en ce moment dans ton salon directement chez toi, en ce moment j'ai terminé mes études il y a quelques mois et je me suis dit qu'il me fallait un nouveau projet. Parce qu'avant, ma vie, c'était études et YouTube. Et depuis quelques mois, je vis sur YouTube à plein temps. Et j'avais besoin d'un nouveau projet pour me sentir plus épanoui, ouais. Tu vois, dans ma vie.
Bien sûr. Ouais.
Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de rencontrer les personnes qui m'inspirent au début de ma chaîne YouTube, il y a seulement 2 ans. Tu vois, donc je me rappelle encore très bien de cette période. Et donc en ce moment, bah, je tourne un petit peu dans la France pour rencontrer les personnes qui m'ont, inspiré dans certains domaines. Et toi, tu as été une des inspirations dans le domaine de structurer un petit peu sa vie professionnelle, d'essayer de créer des sources de revenus, même lorsqu'on n'est pas une grande star sur YouTube. Et je pense que c'est... Tu as été un des premiers à me faire comprendre qu'on pouvait vivre sur YouTube, qu'on pouvait en faire son métier, même lorsqu'on n'est pas une superstar. Et ça, je trouve que c'était une des premières fois que j'entendais ça et j'ai trouvé ça original lorsque j'ai entendu ça. Mmh. Donc, j'ai trouvé ça très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas forcément, parce que moi, je suis plutôt dans le milieu étudiant?
Ouais, alors je m'appelle Antoine, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Antoine BM, qui a 150 000 abonnés et je gagne ma vie grâce à une newsletter que j'envoie tous les matins, c'est une newsletter quotidienne, dans laquelle je vends notamment des formations pour aider les gens à monter une activité simple, minimaliste, sur Internet, même si justement, ils n'ont pas une très grosse audience.
Ok. Bon, après, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui te connaissent dans mon audience. Hier, j'ai fait une story Instagram en disant que je rencontrais quelqu'un qui était dans le milieu... business en ligne, un peu marketing aussi, et j'ai pas donné trop d'indices, j'ai pas dit liberté ou j'ai pas donné des mots un petit peu plus Antoine BM friendly pour pas donner trop d'indices, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont repéré que c'était toi que j'allais interviewer, donc voilà, c'est juste une petite présentation, mais en effet, donc ça fait quelques années que je te suis, et je te disais en off, mais la première fois que je t'ai découvert sur YouTube, t'es arrivé dans mes suggestions YouTube et j'ai trouvé, je me suis dit, c'est qui ce gars en fait qui veut me donner des conseils sur YouTube? Parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup de divertissement. Évidemment, j'étais le visiteur de YouTube lambda qui a des recommandations classiques de YouTube. Je n'avais pas vraiment de feed personnalisé. Et les contenus que j'avais, c'était soit du sport, soit du divertissement. Et donc, les contenus que je voyais, c'était plutôt des « on part une semaine en vacances »,« visite de mon nouvel appartement »,« oh my god, il s'est passé ça dans ma vie ce matin » ou alors « un résumé sportif ». Et toi, t'es arrivé et puis t'as fait une vidéo, je sais plus sur quel sujet, mais c'était une miniature simple, écrite en minuscules, ce qui était rare à l'époque.
Et, sans émoji.
Sans émoji et sans tête incroyable sur la miniature. Et juste, c'était un conseil, je sais plus sur la productivité ou le marketing, mais c'était juste un petit conseil simple. Et la petite histoire, c'est que cette vidéo, j'ai pas voulu cliquer dessus, justement parce que je me suis dit, ça collait vraiment pas avec ce que je regardais à l'époque et je l'ai laissé en suspens, tu vois. Je pense que ça fait ça avec beaucoup de youtubeurs, y a toujours une phase d'adaptation, je trouve, lorsque tu rencontres un nouveau youtubeur sur YouTube, et donc j'ai pas cliqué dessus et j'ai vu une vidéo d'Antoine Fonbonne à l'époque qui avait fait un feat avec toi et je me suis dit, ah, c'est le gars que j'ai vu passer sur mon feed il y a quelques semaines. J'ai cliqué, j'ai découvert le personnage et j'ai trouvé ça cool et je suis sûr que ça m'a fait, y a des gens qui, quand ils m'ont découvert sur YouTube, ça a fait la même chose. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire sur le fait de, de passer d'un mode de vie où tu te divertis beaucoup à un mode de vie où tu essayes d'apprendre des choses, et du coup ça paraît normal d'apprendre sur YouTube.
C'est clair, ouais, c'est une démarche. Moi j'ai découvert le monde du marketing en ligne et du business sur internet à une époque de ma vie où j'étais à fond dans le développement personnel et dans l'envie de changer, de progresser, d'améliorer ma vie. Donc il y avait une démarche proactive aussi de mon côté de me dire j'en ai marre de simplement consommer des trucs qui vont rien m'apporter. J'ai envie de progresser, quoi. Et donc la meilleure façon de progresser à l'ère d'internet, c'est de progresser grâce à l'histoire des autres, de regarder comment les autres l'ont fait et ensuite de regarder ce qu'ils disent et essayer de faire la même chose, quoi.
Ouais, et je trouve qu'on se... Il y a une grande partie de gars, surtout, je trouve, entre 18 et 25 ans, qui se cherchent beaucoup. Et on se retrouve souvent sur YouTube à ce moment-là, ouais, ou avec les livres. Il y a une grande communauté. Et en fait, moi, on me demande parfois justement ce qui m'a donné envie de tomber dans le développement personnel, tu vois, d'apprendre des choses, de faire quelque chose de ma vie. Et ça part souvent d'un mal-être, en fait. Ça part pas forcément d'une démarche « Ah, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais regarder sur YouTube ?» C'est en fait « Non, j'en ai juste marre et j'ai envie de faire des choses dans mon quotidien. » Est-ce que tu as ressenti un petit peu ça aussi ?
À fond, à fond. Enfin, moi, à cette époque-là, j'étais... J'en pouvais plus de ma vie, quoi. J'avais qu'une envie, c'était, tu vois, j'enchaînais les stages un peu merdiques. Quand j'ai découvert le truc au tout début, j'étais dans mon année de terminale, tu vois, j'avais mon bac dans quelques mois. Enfin, j'étais dans cette phase où, genre, tout me saoulait. J'avais envie de liberté, j'avais envie de voyager, j'avais envie de contrôler ma vie. J'avais aucun contrôle sur ma vie. Et donc, c'était cette frustration qui, évidemment, c'était le moteur, tu vois, de cette recherche effrénée de il faut trouver des solutions. Et c'est intéressant ce que tu dis. Je pense qu'en effet, chez les jeunes, la principale source aujourd'hui d'informations utiles, c'est YouTube, j'en suis convaincu. C'est les gens viennent chercher des réponses sur YouTube, et donc c'est un endroit sur lequel il faut être si on veut se positionner là-dedans.
Et justement, on a un point en commun, c'est que on n'était pas heureux dans nos études, on n'était pas épanoui dans nos études. Il me semble que tu as fait une école de commerce,
ouais,
c'est ça, et ça te plaisait pas.
Bah, c'est pas ça, c'est que en fait, au moment où j'ai démarré mon école de commerce, je savais déjà ce que je voulais faire d'un point de vue entrepreneurial. En fait, j'avais découvert à ce moment-là des blogueurs qui gagnaient leur vie sur Internet. Et je me suis dit, putain, ces mecs-là ont une putain de vie, quoi. Tu vois, ils vivaient à l'époque sous les cocotiers, en digital nomade. Ils écrivaient des petits articles et hop, ils gagnaient de l'argent avec ça. Enfin, pour moi, c'était absolument ce que je devais faire. Et du coup, je savais ce que je voulais faire, mais pour l'instant, j'avais rien. J'avais pas d'argent, j'avais pas d'audience. Jamais j'aurais pu convaincre mes parents à ce moment-là que j'avais les capacités de gagner ma vie avec ça. Et donc, il fallait que je trouve des études, il fallait que je démarque quelque chose, j'allais pas rien faire. Et donc, je me suis lancé dans une école de commerce parce que je me disais, je veux être entrepreneur, ça peut m'apporter quelques trucs et surtout, ça va m'apporter du temps libre. Les écoles de commerce moyennes en France, c'est pas un travail de fou, ça te laisse beaucoup de temps libre. Et je me suis dit, pendant ce temps libre, je vais le consacrer à continuer à construire mon vrai projet. Et mon vrai projet, c'était ça. Donc pour moi, les études, c'était un peu une excuse. C'était un peu un alibi pour dire aux gens, c'est bon, regardez, je fais quelque chose de ma vie. Mais pour moi, la vraie mission, le vrai succès, ça allait être de construire mon blog, ce qui était les bases de ce que je fais aujourd'hui.
Ok. Ok, je pensais que tu avais trouvé ton projet pendant tes études ou que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire. Oui, parce que tu avais déjà lancé des blogs en terminale, en fait, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Exactement.
Juste avant le bac.
Ouais.
Ok, c'est ça. Et c'est intéressant parce que, justement, donc, t'étais pas non plus hyper épanoui dans tes études.
J'ai rien appris.
C'était comme une excuse, oui.
Concrètement, j'ai fait de la compta pendant 3 ans, tu vois. C'est vraiment que ça, que de la compta. Et aujourd'hui, je fais plus de compta, j'ai un comptable, tu vois. ça n'a aucun sens. J'ai eu un cours utile, c'est un cours de vente. Pas de cours de marketing, parce que marketing, tu fais des trucs que tu utilises, à la limite, si tu bosses au service marketing de chez Yoplait, mais c'est pas des trucs concrets que tu vas pouvoir utiliser en tant qu'indépendant. Le seul cours utile, c'était le cours de vente. J'ai dû avoir 6 heures de cours de vente en 3 ans. On devait vendre une tondeuse devant la prof, j'ai trouvé ça génial. Et c'est le seul truc que j'ai retenu. Après, autre truc utile quand même, c'est que tu fais des projets en groupe et tu fais beaucoup de projets en public. Et donc, ça t'entraîne quand même à prendre la parole en public, ce qui est indispensable plus tard.
C'est ça. Après, c'est vrai que alors j'ai rencontré beaucoup de personnes aussi qui ont fait une école de commerce. Je trouve qu'il y a beaucoup d'étudiants en école de commerce. Et c'est vrai qu'ils me disaient souvent les mêmes choses, c'est que bah, quel que soit le projet professionnel qu'ils avaient après ou le métier qu'ils faisaient, ils avaient dû réapprendre des choses ou apprendre ce qu'ils avaient déjà appris en école de commerce, mais différemment. Donc, ils n'ont pas spécialement retenu grand-chose de leurs études. C'était plutôt l'aspect communauté, l'aspect réseau. Mais
de toute façon, les écoles, les études sont toujours en retard par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'elles éduquent toujours les jeunes à faire quelque chose qui est déjà mainstream. Donc si tu veux te lancer dans quelque chose qui est nouveau, par exemple, monter un petit business en ligne, devenir youtubeur, créateur de contenu, j'en sais rien. Il n'y a aucun moyen que tu apprennes ça dans les études officielles, parce que les études sont créées a posteriori, une fois qu'il y a un marché qui est déjà suffisamment gros pour qu'il y ait déjà une installation de grosses entreprises avec des salariés et tout. Donc généralement, les écoles de commerce, et moi d'ailleurs, c'est une école de commerce qui se disait entrepreneuriale, ce qui n'était absolument pas le cas, en fait, elle t'enseigne à devenir un bon salarié, c'est-à-dire à rentrer dans une case qui a déjà été construite depuis longtemps par des grosses boîtes. Donc c'est pour ça, quand je te dis, tu vois, marketing chez Yoplait, j'ai vraiment senti qu'on m'entraînait à faire ça. On t'apprend à travailler avec des collègues en groupe, on t'apprend à faire tu fais énormément de présentations PowerPoint. Quand tu es indépendant, tu fais jamais de présentations PowerPoint, tu vois, tu t'en fous. Donc là, on t'apprend à convaincre un supérieur hiérarchique. On t'apprend à travailler avec des collègues, mais on t'apprend pas à construire quelque chose de nouveau. Et ça, en fait, tu peux pas l'apprendre dans une école. Tu peux l'apprendre que par toi-même, parce que c'est trop nouveau pour être enseigné dans les écoles. Et donc c'est des choses qu'il faut aller chercher chez les gens qui viennent de le faire et pour qui c'est encore tout frais, et qui peuvent te montrer un exemple à suivre. Je pense qu'on est, tu vois, on est des humains, on est des singes, on apprend par imitation. Et je connais pas un mec du web qui a pas commencé par imiter un autre type. On a tous commencé comme ça. Genre, oh putain, ce mec-là, ça a l'air trop bien ce qu'il fait, je vais faire exactement la même chose. Au début, on a un copycat, ça marche pas très bien, puis au fur et à mesure, on commence à trouver son style à soi, on commence à se différencier, etc. Mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est pas avec des structures déjà créées par des grosses boîtes qui a très longtemps. Ça marche plus comme ça.
Ok, oui, je vois ce que tu veux dire, et je me demande même si parfois, en fait, ce qu'on a appris, ce qui nous a passionné dans notre métier actuellement, est-ce que c'est pas mieux au fait qu'on l'ait pas forcément appris à l'école?
Ah si.
Et c'est une phrase d'Orelsan qui disait que l'école, c'est un filtre qui rend tout très chiant.
Et, c'est clair. Elle nous aurait dégoûté de ce qui nous intéresse aujourd'hui.
Ouais, c'est ça.
Évident.
Et en même temps, j'ai pas envie d'être ce gars qui tape sur les études tout le temps. Parce que je sais pas, moi, mon but, c'est aussi d'aider les étudiants, et je trouve que quand tu vois des contenus qui te parlent de tous les problèmes du système éducatif, et quand tu es en études et que tu dois prendre tes cours et que tu n'as pas forcément le temps de réfléchir à comment changer le système, c'est pénible, en fait. Tu te dis et moi, j'ai dû faire vraiment une... Je me disais, en fait, par exemple, c'était que le soir vraiment que je regardais des contenus pour apprendre des choses en dehors de ce que j'apprenais déjà en fac de droit. Parce que justement, sinon c'est trop dur. Si dès le matin, en fait, tu te dis, bah ouais, en fait, il y a plein de trucs qui vont mal dans le système éducatif, et qu'ensuite tu dois aller en cours et apprendre des cours, c'est super dur. Donc tu vois, j'ai pas envie d'être ce gars qui tape comme ça sur le système éducatif, déjà parce que j'ai une famille composée à 80% de professeurs, tu vois, donc j'ai envie d'avoir des bonnes relations avec ma famille.
Moi aussi, ma mère est prof,
donc... Ouais, c'est ça. Bah ouais, voilà. Donc en même temps, voilà, je vois travailler mes parents, alors ils sont pas à la fac, mais ils sont au lycée, et donc bah ça me fait ça me ferait bizarre de taper sur le système, mais c'est vrai que c'est à nous aussi de compléter l'éducation qu'on reçoit.
Exactement.
À l'université.
Non. En fait, l'idée c'est pas de taper dessus. Moi, je suis absolument rien contre les études. C'est très utile pour plein de gens et pour plein de métiers. Je veux dire, si tu veux devenir chirurgien, il y a un moment où il va falloir faire des études. Tu vas pas apprendre en regardant des vidéos YouTube. Et même si tu peux peut-être perfectionner,
je pense qu'il y en aura dans quelques années des chirurgiens qui vont faire
possible.
Des
mais pour avoir le diplôme, ça risque d'être compliqué quand même sans études. Donc, ok, c'est très utile et tout. En fait, le problème, moi, ce que je fais simplement, c'est une approche individualiste, une approche individuelle, de dire, ok, les études, très bien, d'un point de vue systémique, c'est utile. Ça permet, en effet, la plupart des gens de toute façon sont salariés aujourd'hui. Ça permet de former des gens en masse, d'avoir des gens qui correspondent à des profils, ça permet aux entrepreneurs, aux boîtes, aux supérieurs hiérarchiques de trouver des gens facilement qui correspondent à ces profils-là, de les mettre dans des cases qui ont été construites. Donc c'est très bien, ça, d'un point de vue systémique, ça fonctionne, globalement ça fonctionne. Mais d'un point de vue individuel, si toi ton rêve c'est d'être indépendant, c'est de construire quelque chose de nouveau, c'est de faire ton truc à toi, etc., les études ça va jamais suffire. En fait, le problème des études, c'est que tous les gens qui sortent d'une école de commerce ont exactement le même profil. Ils ont appris la même chose, ils ont les mêmes compétences. Et donc si toi ton objectif c'est de te différencier, tu vas pas le faire par les études, c'est impossible. Tu vas forcément le faire par toi-même, et il y a une différence en fait entre les études et l'éducation. Les études sont pas inutiles, mais les études ne représentent pas l'ensemble de l'éducation que tu peux avoir. Et se construire une éducation, ça peut être faire des études, mais ça va aussi être construire une éducation à la carte pour toi, c'est-à-dire lire des bouquins qui t'intéressent, suivre des créateurs qui t'intéressent, te former chez les gens qui t'inspirent. Et en fait, en faisant ton éducation à la carte, c'est là que tu crées un profil complètement différent des autres, parce que personne d'autre n'aura la même éducation que toi si tu es allé piocher dans plein de sources différentes. Donc moi, c'est ça mon approche.
Je valide ça, et c'est ce que j'ai fait justement avec ma propre éducation. Lorsque j'ai créé ma propre éducation et que je rentrais, et que de chez moi, quand je rentrais dans mon appartement étudiant et que j'apprenais des choses sur le montage vidéo, sur ce qui me passionnait, et la preuve en est que mon stage de Master 2, lorsque j'ai dû le trouver, donc j'ai été recruté au début parce qu'ils pensaient que j'étais un juriste. ce qu'il demandait, il voulait un juriste pour le stage. Et en fait, donc au début, il m'a fait faire des missions de juriste. Donc je rédigeais des articles juridiques, je faisais des recherches, etc. Et puis il s'est rendu compte.
Parce que t'es en droit, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et puis il s'est rendu compte que j'étais sur YouTube et que j'avais une chaîne et que je savais faire du montage. Et quand il a su que je savais faire du montage, il a dit attends, mais c'est trop bien parce que moi, je voulais quelqu'un qui. Je voulais lancer un podcast. Il veut lancer un podcast juridique. Et donc, je me suis servi de mes compétences pour... il était plus content que j'ai des compétences extra-universitaires que des compétences classiques, on va dire, de la fac. Parce qu'ensuite, il a fait rentrer une juriste qui, elle, était une très bonne juriste, bien meilleure que moi. Et comme ça, il avait à la fois une juriste formée à la fac de droit également, qui avait toutes les compétences d'une juriste. Et en même temps, il était content que j'ai mes compétences à côté, que j'avais développées le soir, justement. Et moi, je valide. Bah, moi, c'est ça ma solution à moi, en fait. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le même parcours. Toi, et j'en avais parlé justement parce que. Alors, j'ai une anecdote là-dessus, je vais te la raconter juste après. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la même approche. Toi, tu as vécu une année de césure. Tu as décidé de prendre une année de césure à un moment, et c'est à ce moment-là que tu as vécu à plein temps de ton activité sur YouTube. Alors que moi, j'ai attendu la fin de mes études pour me lancer à plein temps. Mais je trouve que les deux systèmes sont intéressants et correspondent bien à notre personnalité et à l'environnement dans lequel on était aussi. Donc, est-ce que tu peux revenir, toi, sur ton approche? Pourquoi est-ce que tu as pris une année de césure et comment tu es devenu indépendant à ce moment-là, en fait?
Ouais. Alors, pendant mes études, j'ai continué à faire tourner mon blog, même si c'était un peu au ralenti. En vrai, j'ai bien aimé mes études. Hein. C'était un peu c'était la fête. Okay. Tu bois des coups avec des potes, tu fais des amis. Enfin, tu vois, c'est cool, c'est sympa. C'est les seules périodes de ma vie où j'ai fait des études, où j'étais dans un système scolaire agréable. Tu vois. Avant, le lycée, j'ai détesté. Donc, pour moi, c'était une bouffée d'air pur. Et puis, tu es beaucoup plus libre aussi qu'au lycée et tout. Mais pendant ce temps-là, j'ai continué à travailler quand même sur... principalement sur la construction de mon audience, en fait. Je voulais pas perdre l'audience, et ça, c'est un bon truc aussi, c'est quand tu commences à construire une audience, après tu dis, bon, j'ai quand même un truc qui est fragile, j'ai pas envie de le perdre. Ce truc-là, tu sens qu'il a ça de la valeur. Et je voulais pas perdre l'audience que j'avais construit, que j'avais commencé à construire en terminale. C'était pas des milliers de personnes, hein, c'était quelques centaines de gens. Mais tu sens qu'ils comptent un peu sur toi, qu'ils t'envoient des messages et tout, donc t'as pas envie de les décevoir. Et donc j'ai continué à poster, à faire grossir un peu mon audience. Je me suis lancé à ce moment-là aussi un peu sur YouTube. J'ai commencé à faire quelques vidéos et tout, ça a commencé à prendre. Un petit peu, tu vois, mais j'ai maintenu, si tu veux, j'ai maintenu le truc hors de l'eau. Et pendant ce temps-là, j'ai lancé mes premières formations. Donc, je lance ma première formation, je fais 800 euros, je suis fou de joie. Première fois que je gagne de l'argent sur Internet, je m'achète un scooter, évidemment, je claque tout. Formation suivante, je fais quelque chose comme 1000 euros, tu vois, trop bien et tout. Je mets l'argent de côté, je commence à mettre un peu d'argent de côté, etc. Et en tout, peut-être sur 3 ans, je fais quelque chose comme 3 ou 4000 euros, tu vois. C'est pas beaucoup, ça fait pas de quoi vivre, mais ça m'avait permis, si tu veux, de valider mon idée, de me dire, ok, il y a un vrai marché et c'est possible pour moi de gagner ma vie avec. Si je sors pas une formation par an, mais je me mets à en sortir régulièrement, si je me pousse le truc à fond, si j'ai tout mon temps à consacrer à ça, toute mon énergie, toute mon attention, ça va peut-être marcher. Et à ce moment-là, j'ai cette conviction que ça peut marcher si j'y mets tout mon temps et toute mon attention. Et donc, au bout de 3 ans, je me dis, bon, bah, allez, c'est le moment. J'ai un premier diplôme qui est le bachelor. Un bachelor, ça vaut pas grand-chose. Il faut avoir un master sur 5 ans si tu veux avoir une chance ensuite. Donc, je me dis, c'est pas grave. Je m'arrête là. Je fais une année de césure. Donc, une année de césure, en gros, tu dis à ton manager, enfin, comment ça s'appelle dans les écoles, à ton chef, quoi, d'école. ça fait trop longtemps.
Mais les noms diffèrent en fonction des.
Principal, c'est pas celui du tout. Mais bon. Voilà, je viens de lui dire, bon, est-ce que je peux faire une année de césure? Je reviens dans un an, machin, vous me gardez la place. Et donc, c'est un vrai truc qui existe. Donc, le mec me dit, ouais, ok, on te garde la place, c'est bon, tu vois. Et faut quand même payer, prépayer un truc. Hein. Ils sont pas fous, les mecs. Donc, ils te font payer quand même une fille, enfin, une taxe, enfin, un truc. Tu payes ta place et ils te le rembourseront jamais. Faut quand même le savoir. Donc, ok, il me fait ça. Je dis à ma mère, parce qu'à l'époque, je vis chez ma mère, bon, bah voilà, je prends un an. Maman, je fais mon truc. Ma mère. Jamais elle y croit, mais bon, c'est pas grave. Elle m'a dit, bon, allez, laissons-le faire ses petites affaires. Je fais mon truc et au bout d'un an, si ça marche pas, bon, bah, j'y retourne, tu vois. Et sauf que moi, je voulais pas du tout y retourner. Enfin, c'était évident pour moi, non, j'y retournerai pas. C'est mort, c'est l'horreur, tu vois. Après, tu dis, j'ai essayé, j'ai raté, j'y retourne, c'est l'horreur, tu vois. Donc, je suis parti en voyage. J'ai fait un grand voyage de 5 mois où je suis parti au Sri Lanka, aux Philippines, en Thaïlande, en Malaisie. Enfin, j'ai vraiment voyagé tout seul comme ça sur les routes. Et pendant ce temps-là, bah, je faisais une vidéo par jour sous forme de vlog. Je racontais mon voyage, je documentais mon expérimentation de gagner ma vie. Et en même temps, je commençais à monétiser mon audience en vendant des formations. Et petit à petit, au début, c'était compliqué, hein, mais bon, ça va, c'est pas des pays où la vie est très chère, heureusement. Donc, je dormais dans des auberges jeunesse, enfin, c'était minimum syndical, je voyageais en bus, etc. Et j'arrivais à en tirer quelque chose comme 500, 1000 euros par mois, et puis ça a continué à grossir petit à petit. Et à la fin de l'année, je devais être peut-être à 2 ou 3 000 euros par mois. Donc, pour moi, c'était bon, je l'avais fait. Et je suis jamais retourné à l'école de commerce. Ils ont gardé ma garantie.
C'est ça. Ok. Donc c'est une bonne astuce. Ne partez pas. Ne pensez pas récupérer votre garantie si vous partez en année de césure.
Oui, non. Je crois pas qu'ils sont censés te la rendre. C'est le principe.
Ah
tu
d'accord.
Vois.
Ok. Bon, c'est une c'est, ok.
C'est, ils sont pas censés te la rendre. Et si tu te réinscris, bah ça fait partie. T'as pas à la payer. Ça fait partie de tes frais de scolarité. Si tu veux. Je sais plus combien c'est. Hein. C'est peut-être genre 1000 ou 2000 euros sur une année à 7000. Mais c'est quand même pas rien quand t'es étudiant.
C'est vrai. Ok. Donc moi je connaissais l'histoire, mais ça me fait. C'est marrant de la réécouter. Et puis c'est un petit peu, je trouve, ce qui a fait ton histoire à toi, c'est cette idée de partir au bout du monde, de vivre de ton activité en un an finalement, même s'il y avait eu de l'expérience avant accumulée, ça faut pas l'oublier.
Ouais, j'avais testé le concept avant, mais j'ai vraiment lancé le truc
c'est
à
ça.
Ce moment-là.
Et c'est beau ça comme histoire, je trouve. Et moi, ça, quand j'ai entendu ça, j'étais en fin de licence 3, je me posais plein de questions sur ce que je voulais faire plus tard, qui je voulais être, etc. Et en master 1, j'arrive, je vais voir mon doyen, à la fac de droit, c'est un doyen. Je lui dis, monsieur, je vais prendre une année de césure cette année. Il me dit, monsieur dossier, non. Vous partez pas.
C'est ça, ils peuvent dire non, quoi.
Et je dis, si. Il me dit non. Et je lui explique le projet. Et je lui dis, je pense que cette année, je peux filmer, si je prends une année de césure, je peux faire plein de vidéos, en fait, sur, je sais pas, sur, justement, un petit peu, je me suis dit, je vais vivre dans d'autres pays parce que je sens qu'en France, je suis centré sur les études et ma vie tourne autour des études parce que tous mes potes sont dans des études, mais je suis sûr qu'il y a d'autres options ailleurs, que je peux avoir une pensée différente, etc. Et en fait, il a eu raison, mine de rien, de me dire de ne pas partir parce que sinon, j'aurais peut-être fait quelque chose qui ressemblait à toi et ça n'aurait pas forcément aussi bien marché et ça n'aurait pas été mon histoire à moi véritablement. Donc, je suis content à ce jour-là qui m'ait fait réaliser que je n'avais pas forcément de projet, que je voulais juste partir, en fait, prendre la fuite. Et donc, je suis resté à la fac de droit et je me suis dit, bon, bah, mine de rien, je veux quand même lancer quelque chose cette année. Je veux plus juste être étudiant, tu vois, juste apprendre mes cours. Je veux faire quelque chose en plus. Et donc, j'ai lancé ce projet de chaîne YouTube en travaillant le soir et en faisant des vidéos sur la vie des étudiants. Je me suis dit, je vais faire des vlogs, non pas en voyage, mais dans mon appartement étudiant. Mais en même temps, ça montrait la réalité de certains étudiants. Et donc, moi, ça m'a permis aussi de me faire connaître comme ça. Et donc, moi, c'était ça, mon histoire. Donc, c'est différent. C'est deux systèmes différents. Toi, tu es parti d'un jour à l'autre, on va dire, à l'autre bout du monde et tu as vécu de ton activité là-bas. Et moi, c'est petit à petit, en gardant ma vie étudiante. Je trouve, c'est cool
de
montrer les deux.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est important de le dire parce que les gens ont tendance à penser, quand ils sont inspirés par des créateurs, qu'il n'y a qu'un seul modèle qui marche. Et moi, je me souviens, quand je suis rentré de ce voyage et que je gagnais ma vie, j'avais réussi mon objectif, il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Oui, mais c'est facile pour toi, tu étais en voyage, ça fait des vidéos plus intéressantes. Moi, mes vidéos, elles ne sont pas intéressantes parce que je reste chez moi et tout. » Et en fait, toi, tu prouves que ça veut rien dire. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu es prêt à mettre sur la table, ce que tu es prêt à raconter, tu vois. Et c'est pas le fait d'être en voyage qui rend ce que tu vis intéressant. Et en effet, le fait de rester chez soi, ça marche tout aussi bien parce que les gens peuvent s'identifier, ils ont besoin de conseils à ce moment-là sur tel sujet. Donc, il n'y a pas un modèle qui marche pour tout le monde. Chacun suit son truc. L'important, c'est de faire un truc qui te correspond et qui te ressemble. Il y a des gens, ils partent en voyage, ils dépérissent, tu vois. Il y a des gens, ils supportent pas de voyager seul, par exemple. Bon, qu'est-ce qu'ils ont pas besoin de le faire? Moi, j'avais qu'une seule envie dans ma vie, c'était d'être tout seul, tranquille, à l'autre bout du monde et de parler à personne, tu vois, et de faire mes vidéos dans mon coin. Donc, ça a fonctionné pour moi. Mais il n'y a pas un modèle unique. Et ça, c'est important de le rappeler.
Mais c'était très dur de le créer, ce modèle différent. Parce que moi, quand j'ai commencé YouTube, les youtubeurs qui ont bien marché et que je voyais dans mon fil d'actualité, la plupart avaient arrêté leurs études ou n'en ont pas fait parce que ça commençait peut-être déjà bien pour eux au lycée. Donc, ils n'ont pas fait forcément d'études ou alors ils les ont arrêtés très vite. Et je ne connaissais pas beaucoup justement de modèles différents. Donc, toi, tu avais fait des études et tu as réussi à en vivre, mais tu as arrêté tes études au bout de 3 ans.
Ouais, 3 ans.
Donc, tu vois, c'était difficile. Moi, à ce moment-là, j'allais commencer mon master. Et je trouvais pas de modèle différent, justement. Et je suis content peut-être d'en avoir créé un différent et de dire que pour les personnes qui sont dans ma situation, parce que moi, par exemple, je dis jamais que je représente les étudiants. Je représente pas les étudiants. Je représente une partie des étudiants, ceux qui ont un appart étudiant et financé par leurs parents et qui n'ont pas besoin d'avoir un job à côté étudiant. Mais en même temps, je comprends un peu mieux leur réalité, parce que moi, lorsque j'avais YouTube et les études, ça me faisait un peu comme deux jobs. Et je comprends ce truc de devoir travailler sur quelque chose. Et
en plus, c'est des études, dans ton cas, qui sont exigeantes, qui demandent
quand même
un investissement.
Ouais, les études de droit, ouais.
Ouais.
Donc voilà, je ne représente pas les étudiants, je représente une partie des étudiants, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont dans ma situation et qui, pour eux, le problème principal, c'est qu'ils font quelque chose qui ne leur plaît pas, des études qui, pour eux, ne vont pas aboutir vers quelque chose qui va vraiment leur permettre de s'épanouir. Et je pense que oui, il y a des gens qui se sont appropriés ce message et j'ai pu représenter ces étudiants. Mais par rapport au modèle unique, l'idée, c'est qu'il y a... Il y a autant de modèles qu'il y a de personnes différentes, parce qu'il y a, peu importe la personne qui veut se lancer sur YouTube, par exemple, il y a forcément au moins des milliers de personnes qui sont dans la même situation qu'elle et qui vont s'identifier lorsqu'elle va faire
Tout à
des
fait,
vidéos
ouais.
depuis chez elle ou depuis un autre endroit.
Et d'ailleurs, au lieu d'aller chercher ce qui marche et de vouloir à tout prix le récupérer, on peut aller chercher dans ce qu'on fait déjà, documenter simplement sa vie ou ses challenges ou ses difficultés ou ce qu'on a réussi ou ce qu'on rate. Et rien que ça, déjà, ça peut faire du contenu très intéressant. Et la forme compte souvent plus que le thème. Ou, genre, tu vois, toi, tu es à l'aise sur YouTube, tu arrives à créer des vidéos auxquelles les gens se connectent, ils ont l'impression de te ressembler, du coup, tu peux les guider, tu peux les aider. Et ça, tu vois, t'as pas été besoin d'aller importer un modèle des États-Unis. Non, t'as juste parlé en fait de ce que tu vivais. Et rien que ça va attirer des gens à toi. Et d'ailleurs, c'est la première chose qu'on apprend en vente, c'est toujours commencer par les problèmes, par décrire la situation. Quand t'as un produit à vendre, au lieu d'arriver direct avec ton produit et d'essayer de le vendre, tu commences par faire un diagnostic de la situation que la personne a en face de toi, tu lui parles de sa vie, tu lui parles de ses problèmes, et c'est ça qui va faire en sorte que la personne connecte avec toi, crée un lien de confiance avec toi et qu'elle puisse être ensuite intéressée par le produit que tu as à vendre.
Ok, c'est intéressant. Bah, c'est bien, tu donnes des conseils en même temps c'est bien, ça donne des conseils comme ça pour les personnes qui veulent se former sur la vente, mais tu as raison.
Mais même créer une audience, c'est de la vente, tu vois.
Oui,
C'est tu
mais
vends.
tu dis bien dans tes contenus que la vente, ça marche dans tous les domaines de la vie. Ça marche. La séduction, c'est une vente. Moi, même dans mes messages. Les messages que j'envoie, lorsque l'idée d'être un peu plus persuasif aussi, enfin, il y a plein de principes, il y a des biais en fait.
Bien sûr,
On a
bien
tous nos
sûr.
biais humains quand on apprend à les connaître, on peut aussi être une meilleure personne dans la vie ou être une personne plus persuasive. Donc ouais, c'est cool que tu donnes des conseils comme ça. Et ça me faisait plaisir de revenir sur ce parcours en fait, parce que pour faire une présentation un petit peu, pour comprendre un petit peu qui on est. Maintenant, j'aimerais bien faire parler d'un autre sujet qui est l'après. Donc, on a parlé de l'avant parce que toi, ton histoire, ça fait quand même beaucoup d'années que tu es parti vivre de ton activité et que tu es à plein temps pas sur YouTube, mais que tu es indépendant, on va dire.
Depuis 2015, c'est en
Ouais.
2015 que j'ai fait mon grand voyage et c'est depuis 2012 que j'ai commencé à construire mon audience.
C'est ça. Donc, c'est toujours important de parler de l'avant pour aussi présenter son parcours. Et je me demandais justement après. Tu vois, là, on est entre personnes privilégiées parce qu'on a tous les deux accompli notre rêve, tu vois. Ton rêve, c'était d'être indépendant, d'être libre. Le mien, c'était d'être sur YouTube, parce que depuis petit, depuis que je suis adolescent, j'adore cette plateforme et je veux être dessus. Enfin, je savais pas que je voulais être dessus jusqu'à que je me mette dessus et que je fasse « Ah ouais, ok, je sens un truc, tu vois, genre, il se passe un truc. » Et donc, moi, j'ai accompli un de mes plus grands rêves aujourd'hui, toi aussi. Comment est-ce qu'on fait après? Lorsque à 25 ans, tu as 25 ans maintenant, tu avais accompli ton rêve,
27, ouais.
à 22, 23. Qu'est-ce qu'on fait après lorsque on a encore 60 années à vivre au moins et qu'on a déjà accompli un des plus grands rêves
Ouais.
de sa vie?
Alors, c'est une très bonne question. Et je pense que la première phase, c'est peut-être même la plus difficile, tu vois. C'est quand tu viens, en fait, d'accomplir ton rêve et que tu es trop content. Et ensuite, tu te retrouves un peu dans une phase où, bon, je fais quoi maintenant? Et là, tu te retrouves un peu dans une phase où tu testes plein de trucs, où tu explores, où tu essaies de recréer ce que tu as vécu, mais tu n'arrives jamais à le recréer. Je sais pas, moi, ça peut être des voyages, prendre des voyages à certains endroits, j'en garde un souvenir extraordinaire, j'y retourne 2 ans plus tard, je retrouve pas le même truc, tu vois. Et en fait, tu retrouves pas le même truc parce que c'était un moment de charnière de ta vie, un moment de progression. Et seulement après avoir vécu ce moment-là, tu peux te rendre compte à quel point c'était génial, à quel point c'était peut-être la meilleure période de ta vie. Mais du coup, il y a une sorte de. Donc, ça, c'est la première phase, c'est de se dire putain, merde, je fais quoi maintenant? Et de se chercher un peu, tu vois. Et en fait, moi, j'ai vraiment réussi à trouver un intérêt dans la recherche de la longévité. Maintenant, c'est ça, moi, qui m'intéresse. En fait, c'est comme un couple. Moi, vraiment, je compare énormément le business et le couple. Et tu sais, dans un couple, il y a le début, il y a le coup de foudre, il y a le moment un peu intense du début. Et puis, on commence à s'installer et puis il n'y a plus cette intensité-là. Et donc, c'est le moment où beaucoup de couples se séparent parce qu'ils se disent, bah, quoi bon continuer, il n'y a plus cette intensité-là, donc ce n'est pas la personne pour moi. Alors qu'en fait, c'est juste normal. Au bout de quelques années, il ne peut plus avoir la même intensité qu'au début, peu importe la personne. Et si ça n'intéresse pas tout le monde, mais si tu veux essayer de construire un couple qui dure, c'est un défi qui est passionnant, tu vois. C'est de se dire, réussir à survivre à cette baisse d'intensité, survivre aux engueulades, survivre au fait de vivre ensemble et que vivre avec quelqu'un, c'est quand même insupportable la moitié du temps, tu vois. On est... non, mais c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. Moi, je considère qu'on est 70% de médiocrité, tu vois. Et 30% de mecs et de nanas brillants. Et en fait, quand on voit des gens occasionnellement, on montre ces 30% de gens brillants.
Ah, tu veux dire, dans ta vie, 30% du temps, t'es...
Tout le monde est comme ça, je pense. C'est ma théorie là-dessus. Hein. J'avoue qu'elle passe pas toujours, mais c'est ma théorie là-dessus.
Donc, sur une journée de 24 heures, il y a 4 heures où il faut te voir et après...
Exactement. Okay. Exactement. C'est exactement ça.
Et du coup, c'est quoi? C'est de 11h à... Parce que là, il est bientôt midi.
Non,
là.
C'est je profite des moments où je suis seul pour être médiocre. Et quand je vois un mec dans la journée, j'essaie d'être sympa.
Ah,
tu
ça
vois.
Marche. Je suis dans les 4 heures là.
Et quand tu vis avec quelqu'un, tu peux pas faire ça. Parce que tu passes 100% du temps ou presque avec la personne. Et donc, tu vois ces 70% de médiocrité. Et tu incarnes aussi toi-même ces 70% de médiocrité. Et il faut réussir à continuer à aimer et à supporter la personne tout en renvoyant ces 70% de médiocrité et en subissant ces 70% de médiocrité et en subissant tous les conflits, les clashs et les déceptions que ça engendre. Et ça, c'est un putain de défi. C'est le truc le plus difficile au monde. Moi, je suis marié et je trouve que mon mariage est plus difficile que mon business. Le business, relativement facile, ça va, je connais, c'est le web et tout, même s'il y a des périodes un peu... mais le mariage, c'est très, très, très difficile. Et quand c'est difficile, c'est intéressant. Rien n'est intéressant quand c'est facile. Ça peut pas être intéressant, c'est trop facile. Il faut que ce soit juste à la limite de l'insupportable en termes de difficulté, mais ça reste abordable. Et tu y arrives, tu vois, et tu arrives à le faire avancer. Et tu es là à dire, putain, j'y arrive, quoi. Ça fonctionne. Tu dis, c'est complètement bizarre, mais ça fonctionne, étonnamment. Et là, il y a un intérêt. Et ben, pour moi, le business, c'est pareil. C'est-à-dire que tu essayes de faire durer le truc. Il se passe plein de péripéties. Tu as des nouveaux entrants qui arrivent, qui foutent le bordel. Tu as des nouvelles lois, des machins où tu dis qu'est-ce que c'est que cette connerie. Tu as des tendances qui changent, des tendances économiques, des tendances sociales qui t'inquiètent. Et tu dis, et moi, mon but, c'est j'ai un gros bateau maintenant. Et faut tenir le cap, faut pas rentrer dans un iceberg, faut pas que ça coule, faut réussir à faire en sorte qu'il aille le plus loin possible. Et ça, c'est passionnant. Et moi, j'éprouve un vrai plaisir dans le fait de tenir mon journal et chaque jour noter des idées, des choses pour que ça dure, pour que ça grossisse, pour que ce soit de mieux en mieux avec le temps. Donc la progression, on peut y trouver le même intérêt que dans la phase d'hypercroissance de départ, qui est inimitable, évidemment, qu'on ne retrouvera jamais. Mais on peut retrouver ce truc-là dans la recherche de la longévité. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis.
Ok. Donc c'est ça ton... Tu te dis, bon, bah, j'ai encore beaucoup d'années à vivre. On va essayer de vivre en meilleure santé, de faire les meilleures choses possibles. Ok.
Ça marche aussi d'ailleurs pour la santé, pour le sport et tout, tu vois. Il y a les mecs qui veulent prendre du muscle le plus vite possible à 20 ans, comme tous les mecs. Et puis, il y a ceux qui se disent à 40 ans, putain, j'aimerais bien vivre en bonne santé le plus tard possible, tu vois. Et là, ça devient... Là, tu vas moins t'intéresser à l'intensité, mais davantage au système, à l'organisation de tes journées. À tes habitudes, les habitudes saines que tu prends, tu vois, à essayer de te débarrasser aussi des mauvaises. Et ça, c'est un défi, voilà, c'est un défi comme un autre, c'est intéressant.
Ok, c'est intéressant l'idée des défis, justement, parce que j'ai trouvé, justement, comme moi, j'ai un peu vu les... Alors, j'ai pas vécu le moment où t'as vécu, toi, ta prise de liberté, on va dire. J'étais pas sur YouTube à ce moment, enfin, je t'avais pas vu sur YouTube à ce moment-là, mais je l'ai compris rétrospectivement. Par contre, j'ai vu l'après, j'ai vu les années d'après, et c'est vrai que je trouve que tu te mets souvent des nouveaux défis. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça le truc lorsqu'on a accompli son rêve principal dans la vie. Ouais. C'est on essaie de se trouver des petits défis. Tu as commencé la passion du vélo.
j'ai saoulé tout le monde avec ça.
Ouais. Mais justement, alors c'est marrant parce que tu parlais du vélo et tu as pris des positions sur le vélo comme tu n'avais jamais pris de position sur d'autres sujets.
C'est clair.
Et c'est la première fois, lorsque tu as commencé à parler du vélo et du fait que tu étais dans une commune et que tu essayais de faire changer un petit peu les choses dans ta commune pour mettre plus en avant le vélo, que tu as commencé à dire que tu étais allé dans des... tu as pris des positions... comment ça s'appelle lorsque tu essaies de te mettre dans un groupe pour la ville, pour faire avancer...
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans une... Ouais, dans... Je sais pas, dans une communauté... Dans...
Un truc... Ouais, tu essaies de faire avancer dans ta communauté. Et ce qui est marrant, c'est que toi et moi, on a ce truc de... la liberté individuelle de changer le monde en se changeant soi-même, de pas essayer de changer le monde en changeant tout le monde d'un coup, mais de se changer soi-même parce qu'on a forcément été influencé par la philosophie individualiste du développement personnel. Et c'était la première fois pour le vélo que tu disais bon bah ça va pas pouvoir se faire tout seul et on va y aller en groupe pour essayer de faire la propagande du vélo dans Paris. C'est un petit peu ça que...
Ouais, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que j'y ai réfléchi justement il n'y a pas longtemps. Et c'est la première fois en effet que je m'intéresse réellement à un souci de communauté, à un souci de système. Et en fait, je pense que la raison, c'est qu'il y a une grosse frustration avec... Bon, en gros, moi, j'ai toujours été intéressé par le design urbain, city planning, etc. Et il y a une grosse frustration, c'est qu'à l'échelle individuelle, tu ne peux rien faire pour ça. Tu peux rien faire. Si tu es passionné, alors moi je ne suis pas passionné par le vélo en soi, mais juste j'aime bien l'idée de créer une ville où il fait bon vivre, tu vois. Mais si tu es passionné par exemple par le vélo, mais qu'autour de toi il n'y a que des autoroutes, mettons que tu vis à Dubaï par exemple, à part aller sur la petite voie piétonne avec une piste cyclable de 10 mètres sur l'endroit touriste, tu ne pourras jamais vivre ta passion. C'est interdit, donc quoi, tu ne peux pas. Structurellement, tu ne peux pas. Et donc ça génère une sorte de frustration qui fait qu'à ce moment-là, tu peux avoir envie de changer les choses. Mais je pense que dans la plupart des domaines de la vie, en effet, notre pouvoir individuel est infiniment plus important que notre pouvoir collectif. L'argent étant le plus gros exemple, si tu veux gagner beaucoup d'argent dans ta vie, tu peux faire la grève pour essayer d'avoir un SMIC de 10% plus important, ça ne va pas changer grand-chose à ta vie. Ou alors, tu peux monter un business tout seul sans rien demander à personne et devenir millionnaire. Donc ça peut avoir un impact considérable, ça peut tout changer. Mais en effet, il y a certains sujets dans lequel tu te dis, putain, je peux rien faire. Individuellement, je peux rien faire. Je peux évidemment essayer d'améliorer ma vie. Et individuellement, je peux rien faire. Et donc, il y a des frustrations qui naissent en toi. Et ces frustrations, tu as envie de les exulter. Tu as envie d'en faire quelque chose de positif. Tu as envie d'en faire quelque chose de sain. Donc, c'est ça qui m'est arrivé avec le vélo. Et après, il y a une deuxième chose aussi, c'est que je me suis retrouvé. Et c'est la première fois que j'ai vu ça. Et donc, d'un coup, j'ai eu de l'empathie pour plein de gens qui vivent ça. Je me suis retrouvé dans une bulle. Tu sais, la fameuse bulle. YouTube ou Twitter où tu reçois plus que des contenus qui vont dans ton sens, tu vois. C'est-à-dire que je me suis inscrit sur Twitter, quelle idée de merde, et je me suis retrouvé, j'ai commencé à suivre tous les mecs qui parlaient de ça, et évidemment qui étaient d'accord avec moi, et donc je me suis retrouvé dans une bulle de gens qui m'énervaient, mais j'étais d'accord avec eux, tu vois, mais qui mettaient des trucs qui nourrissaient ma colère.
Qui te donnaient des.
Donc
qui
tous les matins.
Te donnaient à manger, quoi.
Tous les matins, exactement, je me connectais à Twitter et j'avais des vidéos.
Tu prenais ta dose.
Et je demandais rien, j'avais rien demandé, tu vois, mais j'avais des vidéos. De mecs qui se faisaient doubler à 100 à l'heure par un Range Rover, par un mec qui faisait un doigt d'honneur. Et tu vois, okay. tu dis, ce mec-là, ça a dû bien l'énerver, mais il n'y a pas de raison que moi, ça m'énerve. J'étais pas là, tu vois. Moi, j'ai déjà 2-3 connards qui m'énervent à Paris. J'ai pas besoin de subir la colère des autres. Et pourtant, je me suis retrouvé là-dedans. Je suis resté peut-être 6 mois dans cette bulle-là, qui m'était de mauvaise humeur, qui m'était en colère et qui me radicalisait dans mes positions. Et je l'ai senti, j'en avais conscience de ça. J'étais en train de me dire, putain, chaque jour qui passe, je suis un peu plus radical, ça va mal finir cette histoire. Un jour, je me suis dit, c'est trop, récemment. Je me suis désabonné de tous mes comptes Twitter, j'ai arrêté d'aller sur Twitter. Putain, ça va beaucoup mieux. Et donc, je me suis dit, en fait, tous ces gens qui sont. Moi, j'en connais des gens qui étaient modérés, qui étaient intéressants, avec qui tu pouvais discuter de tout, et qui sont petit à petit radicalisés dans une position politique. Et avant, je ne comprenais pas. Je me disais, mais ils sont cons et tout. Et en fait, maintenant, je comprends. Je comprends tout à fait ce qu'ils ont vécu. Et je comprends comment être dans une bulle sur les réseaux sociaux, ça nourrit et ça biaise surtout ton jugement, parce que tu ne vois qu'une partie du spectre, évidemment. Tu ne vois jamais l'autre. Ça nourrit un ressentiment, une frustration, un sentiment d'injustice qui peut être très, très fort, qui est biaisé, qui est donc partiellement faux, puisqu'il est biaisé, et qui te pourrit la vie, en fait, puisque tu n'arrives plus qu'à penser à ça et à voir.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
voir le monde sous ce spectre-là. Donc c'est, du coup, je me suis calmé avec ça. Je me suis dit, bon, à Paris, ça va plutôt dans le bon sens à ce niveau-là. On va laisser faire les choses. Et si je peux aider, j'aide. Mais je vais pas. Ça sert à rien, si tu veux, de regarder des vidéos énervantes sur Twitter et les partager. Ça ne sert à rien, quoi.
Ça fait du bien à la personne qui la publie. Mais en fait, c'est pour la personne qui la publie le soulagement.
Ça convainc davantage les gens qui sont déjà convaincus, ce qui ne sert généralement à rien. Et ça ne convainc pas les gens qui n'ont pas envie de le savoir, parce qu'ils ne sont pas dans la bulle, ils ne la verront jamais, la vidéo.
Bah ça, c'est donc ça, c'est un nom, hein, ça s'appelle l'effet bulle. Et moi, ça ne me l'a pas fait pour le vélo, du coup, mais ça me l'a fait pour la musculation quand j'étais dedans il y a 5 ans. Tu sais, le mouvement, on se lève à 5 heures du matin, on s'entraîne, on suit sa diète, on suit son programme, et tous les gros feignants, en fait, qui ne vont pas à la muscu, c'est des daubes.
Ouais.
Et
je connaissais pas cette bulle, ça a l'air vachement marrant.
Bienvenue dans ma bulle. Il y a un gars qui s'appelle Anthony Goggins, que je respecte beaucoup, qui est un ancien SEAL, mais qui représente un petit peu cette idée là de... Mais il le sait, hein. Il le dit moi-même. Moi, je sais que je vous énerve lorsque je fais des vidéos à 5h du matin et que je vous gueule dessus en vous disant de vous entraîner. Mais moi, ça m'énerve en effet de voir des personnes qui vont pas au bout de leur potentiel, parce que je sais en même temps que ça peut changer leur vie et que ça peut changer plein de choses dans leur relation, dans leur vie, si elles commencent à avoir plus confiance en elles-mêmes. Et là, je comprends son message. Tu vois, mais il est conscient qu'il est dans sa bulle, que c'est pas un individu non plus comme les autres. Il a pas non plus une histoire comme les autres. Et c'est aussi ça que les gens comprennent pas, c'est que c'est pas n'importe qui. Il a un passé qui est absolument horrible, tu vois, et c'est aussi ça, faut se mettre dans la peau de tout le monde. Mais lui, il représente un petit peu ça, l'idée de ça l'énerve.
C'est vrai qu'il y en a dans l'entrepreneuriat aussi, tu vois. Genre, s'il arrive à une heure choc et tout.
Mais moi, un petit peu, hein, lorsque.
Tu te fais insulter quand tu regardes ses vidéos et t'es là, ouais. Il a raison. Ouais.
Mais moi, ça me l'a fait parce que les moments où je me suis le mieux senti dans ma vie, c'est les moments où j'étais une machine. Et j'ai eu des phases comme ça où j'étais une machine. Et dans le sport, dans mes études, dans YouTube, tu vois, l'ensemble, j'étais à fond. Et ça m'énervait à ce moment-là, je le prenais personnellement lorsque je voyais des personnes de mon entourage qui n'allaient pas à fond.
Je comprends tout à fait ce que tu dis, ouais.
Les et périodes que je les voyais s'énerver.
On est bien, oui. on a moins d'empathie pour les gens qui ne sont pas dans ce truc-là.
Parce que moi, je me sentais bien et parce que ces personnes se sentaient mal, elles se plaignaient de choses que je trouvais un petit peu débiles, mais en même temps, peut-être que le mouvement go hard, allez-y à fond, ça, c'était pas la période de leur vie où il fallait leur dire ça, c'était pas approprié pour ces personnes à ce moment-là.
Mais c'est vrai qu'il y a des études, par exemple, qui montrent que plus les gens deviennent riches, moins ils ont d'empathie pour les problèmes de pauvres, tu vois. Et n'importe qui, tu vois, même ça n'a rien à voir avec ta couleur politique, hein. Tu peux être d'extrême gauche et tout, tu deviens riche, on n'a plus rien à foutre des pauvres. Enfin, il y a un truc comme ça, et c'est intéressant. C'est qu'en effet, probablement que quand toi, tu réussis quelque chose, ou quand toi, tu es dans une bonne dynamique par rapport à quelque chose, tu t'éloignes, et peut-être aussi que c'est un mécanisme, peut-être même de défense intérieure, de se dire, j'ai pas envie de retourner dans ce truc-là, et donc du coup, je vais m'opposer en fait philosophiquement à ce que j'étais, et à ce que d'autres gens sont.
Mais souvent, on déteste les personnes qui représentent ce qu'on était avant.
Oui, tu l'as mieux dit que moi, mais c'est ça. Ouais.
Goggins, il disait que, en fait, il parle de ses démons. Il dit c'est le gars qui était en surpoids. Il dit ce gars, il montre une photo de lui à l'écran. Je le reconnais plus, c'est pas moi. Il me fait peur, en fait, tu vois. Il me fait peur. Et donc, les personnes, je pense, qui ressemblent au lui d'avant, représentent ses démons et il voit un peu ses démons partout.
Il dit sévérité.
J'ai même pas envie d'être avec cette personne parce qu'elles vont m'influencer, elles vont me faire revenir en arrière. Et je comprends. Et
c'est un mécanisme de protection, en fait.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, d'ailleurs, au moment où on fait cette vidéo, la dernière vidéo que tu as publiée sur ta chaîne, ça parle du développement personnel et peut-être de cette idée que cette vision individualiste du développement personnel est peut-être un petit peu ancienne maintenant. Est-ce que tu penses maintenant que dans sa vie, il faut prendre, on va dire, 90% en charge de manière individuelle sa vie? Et 10% considérer que tous ces problèmes ne peuvent pas être résolus par soi-même, mais aussi par une communauté, par la communauté, se mettre en groupe.
Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, moi, ce que je disais dans la vidéo, c'était que ouais, le développement personnel était un peu démodé, c'était un truc bien années 80-90, dans une population très optimiste, où voilà, on leur disait, y avait les mecs étaient inspirés par Schwarzenegger, par des modèles en fait inaccessibles, et ils se sentaient inspirés par ces gens-là, et donc c'était eux qui incarnaient. Tu prends Tony Robbins, qui est vraiment l'incarnation du gourou en développement personnel de cette époque-là, c'est-à-dire c'est une force de la nature, le mec, il est... Enfin, tu vois, c'est difficile de s'identifier à lui, mais il a cette capacité de motiver. Et aujourd'hui, ça va plus être des mecs comme Mark Manson qui ont un physique tout à fait ordinaire et qui vont davantage donner des conseils sur comment être plus en paix avec soi-même, c'est comment réussir à s'en foutre, etc.
Tu peux citer son livre, best-seller
Ouais, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, l'art subtil de s'en foutre.
C'est ça. Ouais, mais je pense que les gens connaissent pas l'auteur, mais ils connaissent le livre.
C'est vrai que l'auteur en soi est pas très connu, mais le livre a été un best-seller énorme. Il incarne quelque chose qui correspond peut-être plus aux besoins aujourd'hui. Mais j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais j'ai réfléchi après. En face de ça, il y a aussi un retour, je trouve, d'une sorte de rigueur et d'austérité qui marche très très bien chez les jeunes, notamment chez les jeunes hommes comme nous, qui sont incarnés par des mecs comme par exemple Jordan Peterson, tu vois, aux États-Unis, ou Joe Rogan, ou des mecs dont le mec dans le sport aussi, des gens qui sont là en train de prôner justement une rigueur et une maîtrise de soi. Et je pense que ça aussi, ça marche bien parce que tout marche bien souvent en contraste avec autre chose ou en réponse à autre chose. Et en fait, c'est vrai que nous, on est les cibles numéro un, par exemple de la flemme et on est très facilement, toi t'aimes bien YouTube, t'es comme moi, on est très facilement emporté dans un torrent de glander sur YouTube et de se laisser entraîner dans des trucs qui nous affaiblissent et qui nous éloignent de nos objectifs. Et donc face au surdivertissement qui représente aujourd'hui les réseaux sociaux, tout ça, il y a aussi une nouvelle forme de développement personnel qui prône la maîtrise de soi, la discipline et le sérieux, une forme de sérieux, tu vois. Je trouve que Jordan Peterson incarne vraiment ça, tu vois. Le sérieux, la respectabilité, qui avait vraiment un peu disparu ces dernières années, ou ce qui ne s'était plus vraiment mis en avant. Et donc ça, c'est intéressant. Mais tout ça, c'est intéressant. Et ça vient souvent en réponse à un excès. J'ai l'impression que ça fonctionne toujours comme ça, les tendances. Il y a une tendance qui aboutit à un excès, qui fait émerger une tendance inverse, qui aboutit elle-même à un excès, qui refait émerger une tendance inverse. Et en fait, ça obéit à des cycles comme ça.
Et j'ai l'impression que maintenant, il y a la version 3 qui arrive, où en fait, tu as des gens comme des Joe Rogan ou des Peterson qui ont fait beaucoup de choses, qui représentent une forme d'autorité pour les personnes comme nous qui regardons ça, mais qui parlent de leurs problèmes de santé mentale.
C'est vrai.
J'ai l'impression que maintenant, on voit des athlètes qui en parlent, on voit des...
Alors qu'avant, c'était considéré comme une faiblesse.
Ouais.
On n'en parlait pas. Et aujourd'hui, en fait, tout le monde quasiment est concerné. Enfin, beaucoup plus de gens sont concernés, c'est devenu une norme, et donc on voit plus ça comme quelque chose de courageux, de l'assumer, d'en parler, d'aider les gens vis-à-vis de ça.
Ouais, mais c'est ça. Et selon moi, c'est ça la V3 qui arrive, la troisième version. C'est des gens qui ont
on
fait
est des
choses.
Warriors, ouais. Mais on est en dépression.
Et on pleure le soir.
On pleure le soir. Exactement. C'est ça, Warrior le matin, mais le soir, bon.
Mais il y a une partie de moi, tu vois, où... C'est vrai que j'aime bien quand je vois des athlètes parler de ça. Et en même temps, je suis content qu'il y en ait qui n'en parlent pas. Parce que ce truc du super-héros, tu as toujours besoin qu'il existe un petit peu. Et par exemple, Schwarzenegger, c'est quelqu'un qui a inspiré plutôt la génération d'avant, pas forcément ma génération. Mais lui, il n'a pas dû parler souvent des problèmes de santé mentale, par exemple. Et c'est toujours, je trouve, bien d'avoir aussi des gens qui n'en parlent peut-être pas. Tu vois, parce que... Heureusement qu'il y en a qui en parlent, mais je trouve ça bien qu'il y en ait qui n'en parlent pas. Et j'aime bien me dire, moi, dans un coin de ma tête, qu'il existe des personnes pour qui ça va bien quasiment parfaitement, tu vois.
Quand on cherche bien, il y en a peut-être un ou deux.
C'est ça, bah oui. Non,
mais en vrai, moi, je pense que personne... Enfin, qu'il y a toujours une face de la médaille, tu vois. Et que plus les gens ont l'air parfaits à l'écran, plus il y a de chances quand même qu'il y a des grosses failles derrière. Et souvent, on s'en rend compte, d'ailleurs, les gens qui doivent être moralement irréprochables ont parfois des secrets inavouables énormes, tu vois. Donc voilà, moi j'aime bien quand même l'idée que le gars laisse une soupape où il laisse sortir parfois des trucs en disant bon, je suis pas un surhomme. Et d'ailleurs, c'est inspirant quand le gars est pas un surhomme, parce que tu dis il a accompli quelque chose d'exceptionnel sans être un surhomme. Donc je peux, parce que nous on a nos coulisses à nous, on sait qui on est, on sait qu'on n'est pas des surhommes, on connaît nos failles. Et donc quand on a l'impression que les gens qui réussissent sont systématiquement des gens qui n'en ont pas, on peut complexer et se dire en fait c'est pas pour nous la réussite. Et quand on voit que les gens qui ont réussi réussissent malgré leurs failles, moi je trouve ça d'autant plus inspirant, parce que ça nous, on se dit ok, moi je peux le faire aussi, quoi.
Je vois.
Mais en effet, après il y a aussi l'idée que j'aime bien de quand t'es sur scène, tu fais un spectacle, tu vois, et
voilà.
tu performes comme le chanteur, il va pas, tu vois, il va pas venir faire une conférence sur scène sur sa dépression, il va pouvoir en parler dans une chanson comme l'a fait Stromae d'ailleurs récemment, mais il met un masque de performeur en fait. Et c'est ce qu'on lui demande. On lui demande de mettre un masque de performeur. Et donc moi, je suis OK avec cette idée-là, que le mec, à partir du moment où il allume YouTube, genre McFly et Carlito, ils allument YouTube, ils vont faire rire les gens. Même si c'est pas leur jour, même si aujourd'hui ils sont déprimés, ils sont saoulés, ils vont faire rire les gens parce qu'ils performent, le spectacle The Show Must Go On, tu vois. Cette idée me séduit aussi.
Et en même temps, plus je connais les personnes personnellement et plus j'ai envie qu'elles en parlent, parce que comme je pars du principe que tout le monde a ses problèmes dans sa vie, ça me paraît louche lorsqu'une personne n'en parle pas du tout et je me dis que ça peut la détruire de l'intérieur pendant ce temps.
C'est ça.
Et
c'est louche, je suis d'accord.
C'est louche. Mais ouais, en fait, c'est un équilibre. J'aimerais bien. Moi, dans mon entourage et dans les inspirations que j'ai, c'est vrai qu'il y en a qui ne parlent pas des problèmes de santé mentale et je trouve ça bien aussi. Genre, ils performent, ils parlent pas du reste. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien cette pudeur aussi. Et en même temps, je suis très content lorsque je vois des athlètes, par exemple dans le MMA, tu vois, moi je suis beaucoup le MMA, les arts martiaux, et quand je vois un athlète qui est un tueur dans la cage, ça me fait, je trouve ça intéressant lorsqu'il parle de santé mentale en interview post-fight, tu vois. Et moi j'aime bien les deux. Je trouve qu'on a besoin des deux, mais c'est vrai que maintenant il y a beaucoup des deux, alors qu'avant il y en avait pas du tout, quoi. C'était.
Après, il y a aussi des problématiques de santé mentale qui étaient beaucoup plus réduites. Beaucoup plus de gens aujourd'hui sont en dépression ou en mal, notamment probablement à cause des réseaux sociaux, tout ça. Enfin, il y a plus de problèmes, et donc forcément, quand il y a plus de problèmes, on en parle davantage aussi, tu vois.
On en a parlé un petit peu sur...
Peut-être que Schwarzenegger allait très très bien toute sa vie, il n'a jamais eu le moins problème.
Bah, j'aime bien, moi, me dire ça.
Parce qu'il n'y avait pas Twitter.
Ouais, j'aime bien me dire ça. Mais voilà, je suis pas sûr, j'en suis pas sûr pour autant. Mais on en parle un petit peu des réseaux sociaux sur nos contenus. Par exemple, quand on met en avant la lecture, ouais. C'est un tacle des réseaux sociaux. Hein.
Ouais.
Moi, je suis pour le fait d'en parler un petit peu. Et en même temps, moi, j'ai tellement appris avec YouTube que j'ai pas envie d'être ce gars qui dit que c'est pourri et que c'est la pire invention du 21e siècle.
C'est ton business, tu vois. Tu vas pas te tirer une balle dans le pied, ça n'a pas de sens.
Et, non, mais même profondément, c'est pas ce que je pense.
Mais c'est le pire comme le meilleur, les réseaux sociaux. C'est un outil qui est tellement puissant, qui peut être utilisé pour faire des choses extraordinaires et pour faire le pire. Et en fait, les deux sont en train de coexister en même temps. Il y a le pire comme le meilleur. C'est ça qui est fascinant. C'est qu'on ne peut pas se dire bah, juste on les interdit parce que ça détruirait tellement de choses qui ont été construites et qui sont intéressantes. Et d'un autre côté, on sait qu'il y a des problèmes majeurs avec ça et c'est compliqué, quoi.
Ouais, bah c'est pour ça que je parle un petit peu de l'algorithme. Par exemple, moi, quand je suis allé sur YouTube, je me suis formé sur l'algorithme pour comprendre comment est-ce qu'une vidéo était mise en avant, etc. C'était un package, j'ai appris plein de choses. Mais quand je parle de montage, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Mais si je parle d'algorithme et que je leur fais comprendre à mon audience comment est-ce que fonctionnent les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que c'est si addictif. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que les réseaux sociaux, c'est un truc qui a été financé rapidement il y a quelques années. Mais non, en fait, il y a des gens qui travaillent à plein temps sur rendre addictif l'application le plus possible et qui font des tests A, B de comment un contenu marche mieux, comment une mise à jour marche mieux. Enfin, c'est fou, quoi. Donc, moi, ça me paraît important de mettre un petit peu en avant, c'est vrai. Et bah, toi, t'en parles un petit peu, mais par exemple, oui, quand tu mets en avant la lecture ou quand tu te montres en train de faire du vélo, c'est une incitation à sortir aussi. Donc, je pense que c'est un peu notre responsabilité de créateur de contenu.
C'est clair, mais je pense que les gens en ont de plus en plus conscience, on en parle, il y a des docu Netflix là-dessus et tout. Enfin, c'est un sujet de société aujourd'hui.
D'ailleurs, c'est marrant que ce soit Netflix
la question,
qui
en fait,
produise,
de quoi
c'est marrant que ce soit Netflix qui produise
ouais, c'est clair,
des contenus
c'est
comme
clair.
Ça.
Mais en fait, la question pour la plupart des gens, c'est même pas de savoir est-ce que les réseaux sociaux sont bons pour moi ou pas, c'est de se dire comment je fais pour passer moins de temps dessus, tu vois. C'est-à-dire qu'on est déjà dans l'addiction, c'est comme la cigarette, tu vois. Les gens se disent pas, tiens, on est sûr que c'est pas bon pour la santé, on sait que ça nous détruit. Mais on est là quand même, la dernière clope, là, ça fait quand même du bien, tu vois. Donc, c'est une addiction. C'est une addiction. Et une addiction qui apporte aussi des trucs intéressants. Mais c'est une addiction, et probablement que les addictions doivent être régulées, parce que tu ne peux pas demander aux entreprises de s'auto-réguler, parce que dans un marché de libre concurrence, si une entreprise décide de ruiner son algorithme, il y a une autre entreprise qui ne va pas le faire et qui va la doubler, tu vois. Donc tu ne peux pas dire à YouTube, les gars, changez votre algorithme pour pas que ça mette les gens dans une bulle, ou pour pas que ça mette en avant, ou Twitter, pour pas que ça mette en avant la négativité, tu vois, qui est un des plus gros problèmes sur Twitter. Mais s'ils le font, les mecs, ils vont changer de plateforme parce qu'ils sont ils veulent leur dose, tu vois. Il y a une nouvelle plateforme qui va pas le faire. Donc là, pour moi, la seule réponse à ça, c'est une régulation d'État, donc une régulation américaine ou même une régulation européenne sur les réseaux sociaux, c'est possible, tu vois, pour dire, bah voilà, vous devez changer la manière dont vos algorithmes fonctionnent, et vos algorithmes doivent être, je sais pas, en open source, par exemple, tu vois.
Ok, ce serait ta solution.
Bah, c'est un truc, pour moi, c'est un truc, par exemple, bah, c'est une solution qui peut être résolue par la régulation. C'est un truc qui est tellement, aujourd'hui, qui a tellement d'impact sur notre démocratie, sur notre système politique, sur le bonheur de la population, qu'on ne peut pas accepter l'idée que les algorithmes soient des boîtes noires sur lesquelles la population, à laquelle la population est soumise, mais sur lequel elle n'a aucun contrôle. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait l'algorithme de Twitter a plus de pouvoir que n'importe quel leader dans le monde, tu vois. Et ça, c'est si on veut défendre nos libertés en tant que démocratie, je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra au moins forcer les entreprises à les rendre complètement transparents, même si personne ne va rien comprendre, mais au moins il y a des professionnels qui vont pouvoir s'y intéresser, faire des comptes rendus, etc., sur comment fonctionne leur algorithme et comment ça nous biaise et comment ça crée des problèmes. Et ensuite, potentiellement, interdire par exemple les algorithmes qui mettent en avant quelque chose qui marche bien, ou qui créent des profils pour chaque utilisateur et qui leur montrent que des choses qui peuvent potentiellement les intéresser, et retourner à un système un peu plus chiant, mais qui est beaucoup plus sain, un peu comme le RSS, tu vois, où les gens trouvent des blogs, qui, à l'époque des blogs, les gens trouvent des blogs qui les intéressent, ils s'abonnent à 2-3 et reçoivent sur un ordre chronologique les informations, tu vois, plutôt que d'avoir un algorithme qui choisit ce que tu devrais voir parce que les gens qui... parce que les gens ont beaucoup liké, ont beaucoup interagi avec ça, quoi.
Ok, j'avais pas pensé à la vision européenne ou internationale, ou mondiale. Moi, ce que j'ai, parce que moi, c'est un sujet aussi pour moi. Tu vois, j'ai envie de vivre une belle vie. J'ai compris que ça pouvait être un poison pour moi. Et en plus, moi, c'est dangereux parce que c'est mon métier. Et donc, j'ai l'impression d'être productif lorsque je suis sur les réseaux, alors que...
C'est comme, on est des alcooliques barman, tu vois.
Oui, c'est ça.
C'est dangereux.
Oui, des médecins malades. Mais, et donc, moi, ma solution, ce que j'ai trouvé, c'est... je pense qu'on a tous une partie... On a tous une personnalité... comment dire, abusif, dans le sens où on peut, c'est pas abusif le mot, obsessionnel, on a tous, on peut tous être, il y a des gens qui peuvent paraître obsédés plus que d'autres par certaines choses, mais je pense qu'on peut tous être obsédés très rapidement par quelque chose dans notre vie. Et moi, ce qui m'a aidé, c'était d'être obstiné par quelque chose d'autre que les réseaux, qui ne me laissait pas d'autre choix que de laisser mon téléphone en fait chez moi, ou de le garder dans ma poche, mais au moins de faire autre chose. Et quand j'ai été, par exemple, quand la santé c'est devenu un sujet pour moi, bah, je me suis dit, bah, ok, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Bah, il faut que je boive de l'eau, il faut que je sorte dehors, il faut que je prenne 10 minutes de soleil s'il y en a dans ma Normandie pour la vitamine D, et il faut que je sorte, il faut que j'ai au moins une heure de mouvement. Et en fait, tu te rends compte, bah, que tu as une liste de tâches, et donc je sors, je bois de l'eau, je prends le soleil, etc. Et bah, je ne me rends pas compte, mais je suis pas sur mon téléphone à ce moment-là, tu vois. Et donc, ou d'être obsédé par autre chose. Malheureusement, on va dire pour moi, mon obsession, c'est YouTube. Donc, ça se passe sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, moi, j'ai un mode de vie qui est quand même sain à côté. Et donc, ouais. J'ai le sport, j'ai plein de choses, j'ai une vie sociale, donc ça me fait sortir. Mais par exemple, si mon obsession, ça avait été un autre sport, je ne sais pas, le vélo ou un autre sport qui t'oblige à sortir, je trouve ça bien. Et donc, moi, mon objectif aussi, ça va être de mettre en avant d'autres potentielles obsessions pour mon audience qui vont les faire sortir des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que moi, je parle du MMA en ce moment, parce que c'est une passion que j'ai en ce moment. Bah ça, si tu t'entraînes en MMA, bah, tu vas au dojo, tu vas dans ta salle, tu peux pas être sur le téléphone à ce moment-là.
C'est clair que le sport est un très bon moyen de pas être sur les réseaux sociaux. Moi, c'est la raison numéro 1 pour laquelle je vais à la salle tous les jours. Je fais pas du sport de fou, tu vois, je suis pas super musclé, j'ai pas un programme rigoureux, mais juste j'adore, tu vois, ce moment où je passe 2 heures en plein milieu de ma journée à faire une activité physique, je m'écoute un podcast, un truc intéressant, un format long. Je me fais un petit coup de piscine, un petit coup de hammam. Enfin, c'est mon moment de plaisir de la journée, tu vois. Et ça sert aussi à ça, tu vois, ouais, de pas être collé devant un écran, quoi. Parce que nous, on a tendance à faire ça, rester collé devant un écran.
Ouais. Mais je pense que je vais parler plus du sport, encore plus sur YouTube, parce que je fais des stories Instagram. Donc les gens qui me suivent sur Instagram savent que je fais du sport, mais c'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur YouTube parce que j'ai une communauté étudiante, et donc je me dis que c'est pas forcément ça qui va intéresser forcément
après,
mon audience.
Ta communauté, elle peut évoluer aussi avec toi.
Oui, c'est ça.
Bah, je sais pas, moi tu sais, tu me faisais pas mal penser à Ali Abdal, même si vous êtes quand même très différents dans votre style. Ali Abdal, c'est un YouTuber britannique qui a commencé pareil pendant ses études de médecine en l'occurrence. Et il a fini par arrêter ses études de médecine pour se lancer à plein temps sur YouTube. Alors lui, c'est un très très gros YouTuber, il fait énormément de vues. Et il parle de tous les trucs qui l'intéressent, tu vois. Genre à la base, il faisait des vidéos pour les étudiants, plutôt axé productivité et tout. Quand il a acheté sa Tesla, il a fait regarder Tesla Tour. Ensuite, maintenant, il fait des trucs sur les sacs, sur son setup de travail. Enfin, ça tourne toujours un peu autour de la productivité du travail. Mais il est sorti de ce truc-là, conseil étudiant. Et je pense que de toute façon, les étudiants restent pas étudiants à vie, et si tu veux être là sur le long terme, tu vas pas renouveler ton audience constamment. Il y a des gens qui vont vouloir rester aussi, et donc ils vont vouloir grandir si tu veux avec toi. Donc c'est intéressant quand t'amènes les gens aussi dans tes passions et dans tes sujets, tu vois.
C'est vrai que tu parles d'Ali Abdal, je parlais tout à l'heure des inspirations que j'avais et des gens qui ont créé un modèle différent. C'est vrai que lui, il avait ce truc d'être étudiant en médecine en plus la journée, et youtubeur le soir. Sauf que quand je le suivais, quand je l'ai découvert sur YouTube, il n'était pas encore sur YouTube à plein temps. Donc, mais c'est vrai que c'est un autre modèle. Et il y en a d'autres. Il y a aussi Karma Medic. Il y a aussi, c'est un autre étudiant qui est aussi en médecine et qui est youtubeur le soir. Sauf que lui, maintenant, il veut concilier les deux. Il veut toujours être médecin et être youtubeur en même temps. Alors qu'Ali Abdal, il a décidé, lui, de vivre à plein temps sur YouTube. Et je trouve ça inspirant. Je parlais avec un kiné il y a 2 semaines qui, lui, maintenant, est à plein temps sur YouTube. Il a eu son diplôme de kiné. Maintenant, il est à plein temps sur YouTube. Et je trouve ça intéressant de voir des personnes qui ont des métiers très respectables, très valorisés aussi par la société.
Et des métiers qui sont très difficiles à lâcher. Parce que médecin, c'est quand même 10 ans d'études. Donc, si tu fais 8 ans et qu'au bout de 8 ans, tu te dis, bon, bah, table rase, je repars de zéro et j'annule tout et je pourrais jamais être médecin, c'est chaud quand même, tu vois.
C'est ce qui m'a aussi, dans mon entourage, ils comprenaient pas pourquoi j'ai arrêté le droit, que j'ai fini mes études en gros et que je suis parti sur YouTube après. C'est parce qu'eux, ils n'avaient pas vu aussi d'autres YouTubeurs être en médecine même et devenir à plein temps sur YouTube après. Donc, moi, ça me paraissait pas fou comme décision. Mais c'est parce que j'avais vu d'autres cas. Donc, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des youtubeurs qui mettent en avant toujours d'autres modèles. Et si on peut représenter certains modèles, nous, bah, c'est cool. Tu vois, c'est pas ça qui nous. On n'y pense pas tous les jours.
Et c'est pour ça que les gens qui te suivent. C'est-à-dire, je pense qu'ils te voient, beaucoup de gens, à mon avis, qui te suivent, te voient un peu comme un grand frère qui expérimente des choses et qui partage. Ali Abdal est exactement dans ce truc-là aussi. Tu vois. Il n'a pas une position. De vieil expert d'un sujet qui se contente de, tu vois, il a vraiment cette position de bah, je suis comme vous, j'explore la vie, je découvre des trucs et je fais des vidéos là-dessus. Et du coup, ça lui permet de parler de tout, tu vois. Il a fait une vidéo par exemple sur comment être heureux dans son couple, tu vois. Tu te dirais, ça n'a rien à voir avec cette thématique.
Sans être en couple.
Ah oui, sans être en couple.
Oui, c'est ça le problème parfois.
Mais tu vois, il y a un truc de. Je crois qu'il résumait un livre aussi. Bon. Mais il y a un truc intéressant, tu vois, de se dire, c'est les gens le suivent. Pas pour un sujet en particulier, mais pour lui et pour ses expérimentations, parce qu'il dit j'aime bien sa façon de penser, de voir le monde, et donc je pense que les choses qu'il peut découvrir peuvent m'être utiles à moi. Et je pense que t'es un peu dans ce truc là aussi, et ça te laisse une grande liberté de sujet, justement.
Bah, y a les youtubeurs concept et les youtubeurs personnalité, et moi je me situerais plutôt du côté du youtubeur personnalité, ouais, je pense. Donc oui, ça me laisse une marge de manœuvre assez importante, et en même temps bah, si les gens ils aiment pas ma personnalité, bah, ils me suivent pas. Donc ça, c'est, tu vois, c'est à choisir, mais tu choisis pas vraiment en fait. Enfin, depuis petit, j'ai toujours eu ma personnalité et moi je suis content d'être plutôt du côté youtubeur personnalité. J'ai pas cette pression de me dire je dois trouver un nouveau concept absolument et si le concept est pas bon, ça flop. Je peux parler à peu près de ce que je veux. Si j'argumente et que j'essaie d'en faire une bonne vidéo, ben ouais, ça devrait aller.
Moi, je peux raconter ma vie dans chaque email. Jamais je m'ennuie de faire ça. Mais il y a des gens qui se disent qui je suis pour le faire. En fait, justement, t'as pas besoin d'être quelqu'un pour le faire. Ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir cette ouverture, de se dire ce que je vis, les leçons que j'en tire, ça a de la valeur aussi pour les autres.
Exactement. C'est une bonne conclusion, je dirais. Tu vois, on est tous. Je trouve qu'on est semblable là-dessus, on est des individus, mais on représente forcément une partie de la population et peut-être qu'on est un peu plus avancé que quelqu'un qui vient de se lancer, qui vient de commencer à rentrer dans ce monde de « je veux m'améliorer, je veux prendre ma vie en main », etc. Mais en même temps, comme moi, ça fait que 2 ans que je me souviens encore très bien, tu vois, de comment je me sentais à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est marrant de me dire que je suis ici maintenant en train de faire une interview alors que bah, il y a 2 ans, je l'ai regardé tes vidéos en tant que spectateur et je me disais « vas-y, je veux prendre ma vie en main et je veux devenir indépendant ». C'est marrant, ça allait vite. Et j'en parle aussi en vidéo parce que c'est difficile d'atteindre ses rêves vite. Enfin, c'est un problème de privilégié un petit peu, mais ça fait vraiment.
Forcément un avantage parce que après, oui. Tu te retrouves, quand on en a parlé tout à l'heure, mais tu te retrouves très vite à dire merde, putain, j'ai atteint trop vite, maintenant je fais quoi, tu vois. Alors, si tu passes 10 ans à essayer de réaliser ton rêve, ça t'occupe pour 10 ans, tu vois. T'as pas à penser à autre chose pendant 10 ans. Quand tu réalises vite, après, il faut que tu trouves un nouveau
machin. Exactement. Et c'est la période dans laquelle je suis actuellement, mais j'en parle aussi parce que c'est pareil, c'est nouveau, donc peut-être que ça va intéresser des personnes que je parle de ça. Mais ouais, j'essaye de pas maintenant atteindre trop vite mes objectifs et d'en profiter surtout au maximum lorsque je les vis, parce qu'après tu peux vite avoir tendance à voir ça comme une liste de tâches et à cocher et puis à cocher, 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 et puis tu regardes en arrière, tu dis que tu as vécu des trucs assez fous et tu n'en as pas profité. Donc ça va être ça mon défi pour les prochaines années, je pense. Il y a une question que j'aime bien poser en fin d'interview à mes invités, c'est quoi la dernière chose que tu as fait qui t'a fait peur?
Oula, alors
Je crois que t'aimes pas trop les questions spontanées.
Il faut 10 minutes pour trouver. Attends, la dernière chose que j'ai fait qui m'a fait peur. Attends, je vais trouver. C'est probablement lié à un contenu que j'ai dû créer. Ah ouais, je sais. Je pense que c'est quand j'ai créé Attends, il y a peut-être d'autres trucs. Hein. Peut-être c'est quand j'ai créé une vidéo sur les NFT.
Oui, donc une vidéo où tu te positionnes sur quelque chose d'assez d'actualité.
Ouais, et en fait, ça m'a fait peur parce que dans cette vidéo.
T'attaques un mentor aussi, donc peut-être que.
J'ai clair mentor ?
Non, t'attaques. Ah.
Je sais pas si balance.
Tu attaques un mentor, je disais.
Et tout à fait. En fait, j'ai c'est la première fois, je crois, que je fais ça. Hein. Vraiment, je déteste faire ça habituellement. Mais il y a des gens, si tu veux, qui m'ont déçu dans le sens où je les aime toujours. C'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Continue. Enfin, pourquoi t'as arrêté d'être bien, d'être intéressant, et pourquoi tu fais de la merde? Et du coup, je l'ai dit clairement dans la vidéo. Et ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit, c'est pas moi de faire ça, j'aime pas faire ça d'habitude. Mais là, j'avais un besoin d'exulter ce truc-là. Et ça faisait en plus un très bon argument dans ma vidéo. Et je me suis dit, allez, je le mets ce truc-là, tu vois. Et la vidéo a bien marché, je suis content finalement de cette vidéo.
Je vois, donc
c'était pas dans un truc négatif, le but c'était pas de descendre quelqu'un. Je pense pas que je ferais une vidéo gratuite pour descendre quelqu'un, ça m'intéresse pas. Mais par contre, si je peux démontrer un argument en prenant l'exemple de quelqu'un que j'aime, qui est quelqu'un que j'apprécie, tu vois, sincèrement, humainement, tu vois, mais qui pour moi fait de la merde ces derniers temps, je pense que c'est pas forcément négatif de faire ça.
Disons que tu t'es positionné à contre-courant sur un sujet qui va que d'un sens, les NFT. En ce moment, il y a beaucoup de positions qui se ressemblent. Et donc, tu t'es positionné à contre-courant par rapport à ça. Donc, c'est jamais agréable, je pense, de se dire qu'on essaye de faire revenir les gens dans une autre direction alors que tout le monde fonce dans la direction des NFT et du maximum de projets NFT en ce moment. C'est ça, je pense, qui t'a rendu un peu…
Peut-être.
T'as fait un peu peur avant de la publier. Mais c'est normal, je comprends ce que tu veux dire. On ne donne pas toujours notre position dans les vidéos. On parle de. C'est plus facile de juste dire ce qui s'est passé dans notre vie et l'enseignement qu'on en a tiré que de se positionner en tant que.
C'est une vraie stratégie de se dire, ok, est-ce que je me positionne sur ce sujet ou pas? Tu peux ne pas te positionner dessus. Il y a des sujets sur lesquels
c'est toujours plus simple de ne pas se positionner de toute façon.
C'est toujours plus simple de ne pas le faire. Mais le fait de le faire, ça a des bénéfices. C'est déjà pour ton audience, ça peut être une preuve d'honnêteté, même dans certaines formes de courage, même si bon, c'est modéré, mais ça peut être vu comme ça. Et ça permet aussi aux gens qui sont d'accord avec toi de souder la relation avec toi. Et aux gens qui sont pas d'accord, parfois de se dire je suis pas d'accord, mais c'est intéressant. Ça fait parler en fait. Il y a aussi un truc de ça fait parler. Ça intéresse les gens de savoir ton avis sur les sujets, tu vois. Et donc j'évite de prendre position sur des sujets qui ont vraiment rien à voir avec ma thématique. Mais quand c'est directement lié à ma thématique, d'abord je me pose la question. Quelle est ma position dessus? Souvent, ça prend du temps parce que j'ai besoin parce que je change d'avis ou parce que j'ai besoin de me former dessus. Et au bout d'un moment, quand j'ai un avis, je me dis ok, je le lâche cet avis quoi. Après, t'as des sujets pour lesquels c'est plus difficile. Ce que tu dis, si elle se trouve, je vais être obligé de retourner ma veste un jour, tu vois.
Par exemple, surtout un sujet comme ça où tu sais pas forcément comment ça va évoluer.
Tout à fait,
si tu veux acheter un NFT dans 2 ans, t'es un petit peu foutu maintenant.
Mais faut assumer. Il y a un sujet par exemple, c'est le CPF. Tu vois, en ce moment, la France entière se fait harceler par des mecs qui essaient de leur refourguer des formations en CPF.
Si tu peux préciser CPF.
CPF, c'est le compte professionnel de formation. En gros, c'est un truc qu'on.
Formation remboursée.
Voilà, c'est les salariés l'État. Peuvent avoir des formations gratos avec l'argent de l'État, quoi. Avec l'argent de nos impôts. Et t'as des mecs, moi j'ai tous mes pires concurrents, les mecs qui ont moins de morale sont tous au CPF. Les mecs qui vivent à Dubaï, ils n'ont pas payé un centime en France d'impôts depuis 5 ans. Mais et en plus de ça, ils piquent de la thune à la France parce qu'ils vendent leur formation en CPF. Et leur formation, c'est souvent de la merde. Et tu sais, tu vois ça défiler, ça t'énerve. Tu te dis, mais en fait, ce truc, ça devrait même pas exister. Notre boulot de vendeur de formation, il n'est pas difficile. Il n'y a aucune raison que ce soit financé par l'État. Aucune raison. C'est pas les impôts qui devraient acheter les formations. Donc moi, instinctivement, je suis contre. Et ça me gave. Moi, j'ai même pas envie d'être au CPF. J'ai envie que ça n'existe pas. Mais peut-être qu'un jour, j'aurai plus le choix. Parce que quand tu as tes concurrents en fait, qui vendent des produits similaires aux tiens, sauf que ça coûte rien à tes clients, il y a quand même une concurrence déloyale qui est massive. Et donc, je me dis, il y a peut-être un jour où j'aurais plus le choix qu'être au CPF. Et donc, j'aimerais bien m'exprimer dessus, j'aimerais bien faire une vidéo dessus. Et en même temps, je ne suis pas hyper calé sur le sujet parce que c'est du droit, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Et en plus, si ça se trouve, je vais être obligé de retourner ma veste un jour. Donc, j'en parle pas. Pour l'instant, je ne me positionne pas. Enfin, je viens de le faire, mais...
c'est vrai.
Exclu.
C'est ça. Ok, mais je vois bien ce que tu veux dire. Et c'est vrai que j'ai... J'ai rarement donné mon avis très personnel dans mes vidéos, par exemple. Je l'avais donné sur la situation étudiante à un moment, mais pas sur la gestion de la situation étudiante, sur comment est-ce que moi je ferais pour m'en sortir dans telle position, etc. Mais c'est jamais facile et c'est les vidéos qui me donnent le plus chaud, donc j'essaie de revenir au cœur de mes vidéos avec la vulgarisation.
On a droit aussi d'avoir un avis nuancé sur certains sujets. Moi, il y a plein de sujets politiques sur lesquels je ne m'exprime pas simplement parce que je suis nuancé dessus. Je pense que les deux parties ont raison. Et la réponse est à peu près au milieu, tu vois. Donc dans ce cas-là, c'est pas un manque de courage de pas se positionner, c'est juste t'as pas envie de le faire parce que tu sais que la situation est plus complexe que certaines personnes essaient de le faire. Surtout que les sujets politiques, il y a déjà suffisamment de gens qui se positionnent dessus, on n'a pas besoin d'avoir un mec de plus qui le fasse, tu vois.
Ouais, bah ouais, moi c'est pas un sujet pour moi par exemple sur YouTube et ça le sera pas. Et bah je comprends c'est une peur de créateur de contenu en fait. Il y en a qui me disent soit l'élastique, il y en a qui me disent qu'est-ce que j'avais
non,
eu.
Non, moi ça je fais même pas ça, soit l'élastique.
Mais je comprends, c'est une peur. Bon, ce qui pourra parler du coup aux personnes qui créent du contenu.
La plus grande peur des créateurs de contenu, c'est le bad buzz. Hein. C'est quand même
c'est
le truc le
plus entendu, de plus être écouté.
Les gens qui l'ont jamais vécu n'ont aucune conscience de ce que c'est que vivre un vrai bad buzz où t'as des tas d'inconnus sur internet qui t'insultent, où tu te sens menacé, où t'as l'impression qu'il y a des mecs qui vont t'attendre en bas de chez toi. C'est une sensation d'angoisse. En tant qu'être humain, on est programmé pour avoir besoin d'avoir un certain groupe qui adhère, d'adhérer à un groupe. Si on a le sentiment que le groupe entier est contre nous, c'est un truc de survie, tu vois. On vivrait ça à l'époque des hommes préhistoriques, ça voudrait dire la mort, tu vois, concrètement, si on exclut du groupe. Et donc aujourd'hui, on le vit de manière virtuelle, mais l'instinct est toujours là. Et donc c'est extrême, c'est vraiment des sensations extrêmes qui peuvent mener au suicide, à la dépression, à des choses horribles. Donc les gens doivent le savoir quand ils participent à un raid, que ce que vous provoquez chez cette personne, ça peut être, pas toujours, mais ça peut être vécu de manière extrêmement difficile.
C'est ça, il y a plein de peurs de créateurs de contenu qui existent, qu'on met en avant de plus en plus, mais en effet, trop donner son avis, c'est une peur aussi, de peur qu'on nous écoute plus et donc revenir au rejet du groupe et d'être seul socialement. Donc moi je comprends la peur et je pense qu'elle pourra parler aussi à d'autres personnes qui créent du contenu, mais c'est une peur intéressante. Donc merci d'avoir répondu donc à cette question sur la peur et d'avoir pu partager aussi qu'on ait pu reparler de l'avant. C'était intéressant pour comprendre comment est-ce qu'on est aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est là en train de parler sur des canapés ensemble, et puis aussi l'après. Je trouve ça intéressant parce qu'on t'a pas souvent posé la question de comment ça se passe depuis que t'as atteint ton rêve. Tu reviens souvent sur ton histoire, mais je trouvais ça intéressant de parler de l'après aussi, comment est-ce qu'on fait une fois que ça se passe bien pour nous pour continuer d'avancer dans notre vie. Donc je trouvais ça cool d'en parler, et puis bah merci pour m'avoir accueilli ici, et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour les prochaines années sur YouTube et sur tes différents contenus.
Bah merci beaucoup. Si on poste je sais pas si on postera les vidéos en même temps, mais si on le fait, on peut peut-être faire un petit appel à l'action, genre si les gens veulent voir ton interview à toi.
Ouais, bah on peut le dire au moment où je te dirai la date de sortie de cette vidéo, et puis au moment où on tourne cette vidéo, au moment où on la publie sur YouTube, on a publié également une vidéo sur ta chaîne sur d'autres sujets, mais qui vont être tournés au même endroit, et on va parler d'autres choses aussi.
Dans cette vidéo, on parle davantage de ton parcours entrepreneurial, de ton parcours YouTube notamment, de comment tu as construit ton truc aussi vite, et tu vas nous révéler tous tes secrets.
Et ben voilà, on fait ça.
Parce qu'on ne l'a pas encore tourné en fait.
Ouais. Mais elle sera bien, j'en suis sûr. Et je mettrai le lien du coup de l'interview qui est déjà disponible donc sur la chaîne d'Antoine, je le mettrai en description.
Ça marche.
Au top. Bah, merci à toi, et puis on tourne la deuxième vidéo maintenant.
Merci beaucoup. Ça.
Allez, go. Allez, go. I don't wanna, no, I don't wanna, I don't wanna keep playing with you. Whoa. Keep playing with you. No. I just wanna, yeah, I just wanna sustain with you. Yeah. Play no games with you. No. You're the apple in my ear, we eat my eye, eye, eye. Every time make you leave, make me cry. Eye, eye. Meant to be, that's why it always feels on time.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.